L'objectif de, cette 1 heure et demie qu'on va passer ensemble, c'est de vous présenter ce qu'est vraiment le RGPD. Il y a des fausses idées qu'il faut casser. Et puis surtout de voir un petit peu quels sont les enjeux à hauteur du diocèse. Hein, vous n'êtes pas une société privée à but lucratif, donc les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez des entreprises qui traitent très peu de données à caractère personnel, d'autres qui en traitent plus. Le diocèse en traite pas mal avec des données particulières, donc c'est intéressant de regarder un petit peu tout ça.
La petite télécommande, si vous voulez.
D'accord, merci. Alors, tout a commencé en 74. Donc, ça fait déjà un petit moment. Pour ceux qui s'en souviennent, si certains étaient là à cette époque et lisaient la presse, Le Monde a sorti un article qui s'appelait « Safari ou la chasse aux Français ». À cette époque, l'informatique était balbutiant, mais il commençait à y avoir des fichiers au sein du ministère de l'Intérieur. Et le ministre, à l'époque, s'était dit « Je vais constituer un fichier sur l'ensemble des Français et dans un seul dossier, j'aurai toutes les caractéristiques de la personne. Données de santé, tout, vraiment tout. Il voulait vraiment tout connaître sur l'ensemble des Français. » Il y a eu des fuites et ça fait cet article-là qui a été publié par Philippe Boucher en 74, le 21 mars, et ça fait le buzz, hein, le scandale un petit peu en France, ce qui a conduit un petit peu les politiques, les députés à réagir et à se poser des questions. Et ben, c'est la loi informatique et liberté qui est sortie il y a 40 ans. Donc là, la CNIL a fêté dernièrement les 40 ans de sa création parce qu'il y a eu la loi informatique et liberté et la Commission nationale informatique et liberté qui a pour objectif de mettre en pratique ce fameux RGPD. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas vraiment bien fonctionné dans la mesure où cette loi-là n'était pas assez dissuasive. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Dans les années 70, l'informatique, il n'y avait quasiment rien. C'était des entreprises qui arrivaient, des grosses entreprises qui avaient des gros ordinateurs, des grosses machines énormes avec des ampoules et des machins trucs. L'informatique a vraiment commencé à avoir son essor dans les années 90. L'Internet a commencé à se déployer. Ceux qui s'en souviennent, on avait les modems qui faisaient la musique pour essayer d'avoir la connexion. Ça ne marchait pas tout le temps. On payait un forfait. Enfin voilà, c'était assez compliqué. C'était balbutiement. Mais très vite, ça s'est développé. Et le marketing s'est emparé de l'informatique, de l'Internet, parce que pour eux, c'était un nouveau vecteur pour vendre et pour faire du business. Le domaine de la santé aussi s'en est emparé. On a vu apparaître les cartes vitales. On a tous une carte vitale. Hein. C'est l'informatique. Nos données de santé ont commencé à être utilisées et à être diffusées sur des systèmes informatiques. Les banques aussi nous ont mis à disposition les cartes bancaires. Voilà. Vous voyez, ça s'est développé. La vidéosurveillance a également utilisé les systèmes informatiques. Et donc, après cette loi informatique et liberté en France, qui avait du mal à rentrer en vigueur, je vous expliquerai pourquoi. Au niveau européen, il y a eu une première réflexion, et ce qui fait qu'en 1995, il y a eu une première directive qui est sortie, qui était un petit peu une copie de la loi informatique et liberté, et qui avait pour objectif d'harmoniser un petit peu cette politique-là sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, avec un succès plus ou moins mitigé. Les années 2000, vous semblez pas très bien commencé avec les attentats du 11 septembre. Ça a eu un effet majeur sur les données à caractère personnel. Les Américains ont voulu renforcer leur sécurité et se sont énormément appuyés sur les systèmes d'information et de communication pour renforcer leur sécurité. Donc, ils ont utilisé tout ce qui était fichier, tout ce qui était identification des personnes, la biométrie, etc. En France, on a eu la même chose. On a créé également des fichiers. On a même eu un scandale, Edwige, je ne sais pas si vous vous en souvenez, toujours au ministère de l'Intérieur, qui a voulu créer un fichier à nouveau pour les personnes, cette fois-ci, les notables, un petit peu. Alors, notables français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tous ceux qui avaient une responsabilité et qui pouvaient être influents au niveau de la France. Donc, certainement que les évêques auraient été dans ce fichier-là, les élus, enfin voilà, tous ceux qui représentaient un certain nombre de personnes devaient être dans ce fichier. La presse a publié, il y a eu des fuites, etc. Ça fait un scandale et finalement, ils ont arrêté ce fichier. Mais on voit bien que, ben, par exemple, ça c'est une image dans le métro, voilà, la vidéoprotection, les empreintes digitales, tout ça, ça s'est mis en place. Tout ça, c'est des systèmes qui ont eu pour objectif de collecter des données sur les personnes, soit pour assurer la sécurité du territoire, soit pour mieux connaître et pour exploiter. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que la liberté des personnes, à leur insu, diminuait. On a eu aussi un phénomène très très important. toujours dans les années 2000, toujours avec le développement d'Internet, hein, et puis l'ADSL, hein, qui a permis des débits plus renforcés, les smartphones aussi, qui nous permettent d'avoir accès à Internet n'importe où, des grands groupes se sont créés, ceux qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et puis d'autres, se sont développés. Et ont développé un business model qui repose d'une côté sur la gratuité. Moi, par exemple, j'ai des comptes Facebook, Google, j'utilise Google, j'ai une messagerie Google. J'ai jamais rien payé à Google. Quand vous regardez leurs chiffres d'affaires qu'ils font à l'année, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Moi, j'ai rien donné, donc il faut bien que l'argent, il le trouve quelque part. Et en fait, je donne pas d'argent, mais je donne mes données. Et eux, ils exploitent mes données. Je travaille avec Apple, et vous, je sais très bien que quelque part aux États-Unis, chez Google et chez Apple, ils savent que Christophe Grassin est à Besançon depuis hier soir. Voilà, ils le savent. Et là, ils sont capables de me localiser, donc ils savent que je suis ici dans l'enceinte de l'église. Donc, ils savent que souvent je me déplace comme ça dans des diocèses. Donc, s'ils vont regarder sur Internet, ils tapent Christophe Grassin, on voit que je suis DPO. Donc, ils ont conclu que je suis le DPO des diocèses. Donc, ils m'enverront des publicités, peut-être des choses comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est du business hein, qui se fait. Donc, l'exploitation des données. Avec ce principe, si c'est gratuit, en fait, on est le produit. Voilà, ils utilisent nos données, on est le produit. Ça s'est énormément développé. On a vu apparaître en 2004 le fameux correspondant informatique et liberté. Vous avez peut-être entendu parler dans les entreprises, si vous avez travaillé dans les entreprises, ça s'est mis en place, ce n'était pas obligatoire. Un semi-échec, parce qu'en fait, comme il n'y avait pas d'obligation, ça ne s'est pas forcément appliqué. Mais l'idée, c'était un petit peu de sensibiliser les gens sur cette problématique de protection des données à caractère personnel. En 2010, on a eu aussi des scandales d'Edward Snowden, hein, qui a révélé qu'en fait, il n'y avait pas que les GAFAM qui exploitaient de façon sauvage nos données, mais les États faisaient la même chose, et notamment le NSA aux États-Unis, hein, qui exploitait nos données. Voilà. On utilise également de plus en plus d'outils qui sont connectés. Hein. C'est une chaise cassée. Ouais. C'est dangereux de venir ici. Hein. Je pensais pas avoir cet effet. Hein. Voilà, on utilise de plus en plus d'objets connectés, hein, nos smartphones qui disent tout sur nous. Hein, on peut exploiter pas mal de choses hein, sur votre agenda. Si on a accès à votre agenda, on sait ce que vous faites. Mais également, on commence à avoir, il y a des gens qui ont des réfrigérateurs connectés. On a des maisons qui sont connectées, vous savez, hein, qui permettent à distance de démarrer la chaudière, d'ouvrir les volets, ce genre de choses. On a des voitures qui sont connectées. Dernièrement, j'ai vu une publicité pour une nouvelle voiture où la personne, à la fin de la publicité, en fait, il ferme sa voiture avec son smartphone, il s'ouvre comme si c'était un code. Enfin, vous voyez, il y a plein de données comme ça, de matériel qui sont connectés, et tout ça, ça exploite nos données à caractère personnel, et ça explose. Donc, on est de plus en plus utilisé à travers nos données. Et ça va de façon croissante. On a eu l'affaire Facebook Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, hein, où Cambridge Analytica a utilisé des données de Facebook pour faire des analyses sur l'élection de Trump, en fait les élections aux États-Unis, donc il y a 5 ans. C'était un scandale parce que les données qui avaient été collectées n'avaient pas cette finalité-là. On voit également apparaître des gens qui veulent se faire oublier sur Internet. Accrochez-vous, c'est pas facile de se faire oublier sur Internet. Hein. Mais c'est une idée qui apparaît de plus en plus, hein, le droit à l'oubli, hein, se faire gommer. Voilà. Et tout ça, ça conduit à nouveau nos politiciens à l'échelle européenne d'avoir un règlement qui soit beaucoup plus renforcé que le précédent. Et en 2016 a été publié donc le règlement général à la protection des données 2016 pour entrer en application en 2018. Voilà. Sachant que la loi informatique et liberté en France s'appuie depuis 40 ans. Donc ça fait 40 ans qu'on devrait être carré au niveau de la protection des données à caractère personnel. Rassurez-vous, personne ne l'a fait, même pas l'État. Alors, le RGPD poursuit deux objectifs principaux. Le premier, c'est protéger les citoyens, vous et moi. Nous protéger face au business de la data. Hein. Je vous l'ai dit aujourd'hui, l'or noir de ce siècle-là, ce sont les données à caractère personnel. C'est ce qui vaut de l'argent. Hein. Il y a eu le pétrole, il y a eu le charbon. Maintenant, ce sont nos données. Donc, contrôler également les GAFAM, hein, ces grands groupes qui traitent nos données, qui ont des puissances supérieures à celles de certains États, et qui sont vraiment des personnes qui sont, qui sont influents sur les réseaux et dans le monde. Et puis, une chose qui est très importante et qu'on oublie assez souvent, hein, c'est se protéger du risque cyber. La cybercriminalité s'est développée. Derrière, c'est la mafia qui utilise la cybercriminalité parce que ça coûte pas cher à mettre en place. Ça rapporte énormément et il n'y a quasiment aucun risque de faire de la cybercriminalité par rapport à du trafic de stupes ou la prostitution. Donc la cybercriminalité s'est mise là-dessus. Il faut savoir que la cybercriminalité, ce n'est pas les petits boutonneux dans leur garage, l'image qu'on peut avoir, hein, le cliché qu'on peut avoir, hein, qui s'amusent à faire ça. Ils sont organisés et ils sont très professionnels. J'ai vu des articles là-dessus où il y avait un cybercriminel qui était interrogé. Alors, c'est par métier. Hein. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la conception de logiciels malveillants, hein, des virus. Il y en a qui sont spécialisés dans la revente de ces logiciels, hein, sur le dark web, hein, le réseau Internet où on y accède sans être identifié. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les attaques. Et là, c'était un article que j'avais vu où la personne disait que ces attaques, il les chronométrait. Et il estimait qu'au bout, alors je crois que c'était 4 minutes et quelques secondes, s'il n'arrivait pas à atteindre, il perdait son temps, il perdait de l'argent, donc il essayait de trouver une cible plus facile. Vous voyez, donc ils ont un souci de rentabilité. C'est du business, hein. Et ça explose énormément. Et on l'a vu avec l'effet Covid, où le nombre d'attaques informatiques a explosé, parce que tout le monde s'est mis au télétravail. Et le télétravail s'est fait de façon un peu anarchique et sans sécurité. Donc on a ouvert de nouvelles failles. Et les cybercriminels l'ont bien compris et se sont jetés dedans pour aider. Très, très rapidement, hein, vous avez entendu parler des ransomware ou les petits logiciels malveillants qui demandent des rançons qui cryptent toutes les données de l'ordinateur. Donc bien souvent, le vecteur, c'est le mail. Hein. Vous recevez un mail qui vous demande d'ouvrir un pièce jointe ou de cliquer sur un lien. Et puis vous le faites malheureusement parce que le mail est assez bien fait et puis vous le croyez. Et en fait, ça crypte toutes vos données. Et après, on vous demande une rançon. De verser sur Internet une rançon, alors ça, parfois c'est une centaine d'euros, et puis ben, ça peut être 3000 euros, voilà, c'est des choses. Quand le cybercriminel fait ça, il envoie ça à 1 million d'adresses mail. Hein. S'il a 10% qui répond, c'est déjà pas mal. Et si dans ces 10%, les gens versent 100 euros, ben, à la fin ça fait quand même une belle somme, quoi. Hein. Net d'impôts en plus, hein. Ils ne payent pas d'impôts là-dessus. Hein. Donc voilà, l'objectif, c'est d'attaquer très large, gagner des petits gains, mais en cumulant tous ces gains, on arrive à des très grosses sommes. Et c'est comme ça que ça marche, le principe de la cybercriminalité. Voilà. Et bon, quand vous êtes attaqué sur 100 euros, vous allez déposer plainte, ça va être enregistré, mais la suite ne va pas être donnée parce que le préjudice est moins important que le nombre d'heures de travail qu'il y aura derrière. Donc, voilà. Surtout que les gens, ils font ça, mais ils sont dans un pays très loin, et puis ils rebondissent de pays en pays avant de vous attaquer. Quoi. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas négliger ce risque cyber qui est très très important et qui se développe de plus en plus. Le deuxième objectif, qui est non des moindres et qu'on sous-estime parce qu'on en entend très peu parler dans la presse, il a pour objectif de générer la confiance entre les acteurs et les personnes. On a bien compris dans notre société, on ne peut quasiment aujourd'hui rien faire sans moyens informatiques, donc sans traitement de données à caractère personnel. Vous inscrivez quelqu'un, vous inscrivez quelque chose, une personne, vous déclarez vos impôts aujourd'hui, ben voilà, avec votre relation avec l'assurance santé, c'est Amélie, les impôts, maintenant ça se fait en ligne, votre mutuelle, enfin tout se fait en ligne aujourd'hui, quoi, hein. Donc on traite des données à caractère personnel. Le RGPD a pour objectif de dire, voilà, il faut que tout le monde soit conforme au RGPD, et comme ça, en fait, si on est conforme et l'autre est conforme, bah, les échanges, on peut les faire en confiance. Bah, l'idée, c'est ça, un petit peu. Hein, d'accord. Voilà, donc créer une sorte de référentiel de garantie. Alors, à qui s'applique ce RGPD ? Bah, tout le monde, ou presque. Alors, le mieux, c'est d'inverser la question, à qui ne s'applique-t-il pas ? Et là, on comprend mieux. En fait, il ne s'applique pas aux personnes qui traitent des données à caractère personnel, pour un usage privé domestique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chez vous et que vous faites une liste des personnes que vous allez inviter, par exemple, moi, à l'anniversaire de ma fille, on a invité ses copines, on a pris la liste avec elle, hein, on a marqué le nom des copines, le numéro de téléphone des parents, et machin. Voilà. Ça, c'était donc une liste de données à caractère personnel. On l'a fait à titre privé, dans un cadre domestique. Je n'étais pas soumis au RGPD. D'accord ? En dehors de ça, pas de la liste d'anniversaire, hein, en dehors d'un usage domestique et privé, eh ben tout est soumis au RGPD. Que vous soyez une association, que vous soyez une entreprise, quel que soit le statut de l'association, le RGPD s'applique. Alors il y a une particularité, hein, mais on n'est pas concerné, hein, c'est pour tout ce qui est politique étrangère, sécurité de l'État, la gestion des infractions et sanctions pénales. Ce n'est pas le RGPD, mais c'est un autre texte qui régente le traitement de ces données à caractère personnel. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, tout n'importe quoi, mais le RGPD ne s'applique pas à eux, c'est un autre texte. D'accord ? Voilà. Donc, soyez une association de loi 1901, une association culturelle, une entreprise, SARL, SAS, les ONG, les syndicats, les partis politiques, les comités d'entreprise, tous les services d'État, les professions, même les syndicats de copropriété, tous ces organismes-là sont soumis au RGPD. C'est clair ? Et alors, est-ce qu'il y a un lieu, une zone géographique où il s'applique ? Eh bien oui, dès lors que vous êtes localisé sur le territoire de l'Union européenne, bah, ça s'applique. Hein, donc c'est notre cas, hein, on est en France, donc on doit appliquer. Mais il y a une autre particularité, alors qui ne vous concerne pas, mais qui est intéressante de savoir. Hein, il s'applique également à toute personne qui se trouve sur le territoire de l'Union européenne. Pour faire un peu plus simple, voilà. Alors ça, c'était avant le Covid. Mais vous aviez donc... Ouais, je ne savais pas qu'il y aurait eu le Covid après, quand j'ai fait ce diapo. Voilà. Vous avez un Asiatique, hein, une personne chinoise qui vient visiter notre beau pays, la France, et qui visite la Tour Eiffel. Ce n'est pas un ressortissant de l'Union européenne, mais il se trouve sur le territoire de l'Union européenne. Il utilise son smartphone et il utilise WhatsApp, hein, qui est une application américaine, puisque je crois que c'est Facebook, hein, qui est derrière, pour envoyer quelques photos et échanger avec ses amis qui sont quelque part sur la planète, hein, en dire « Ouais, la France, elle est super, regardez la Tour Eiffel, elle est magnifique ». D'accord ? Et bien, dans ce cas-là, je vais aller trop vite, hein. Dans ce cas-là, les échanges de données personnelles qu'il fait au moment où il est sur le territoire de l'Union européenne, hein, au pied de la Tour Eiffel, sont soumis au RGPD, même si lui n'est pas ressortissant du territoire de l'Union européenne, et même si l'opérateur WhatsApp n'est pas ressortissant de l'Union européenne. Mais il traite des données à caractère personnel d'une personne qui physiquement se trouve sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ce traitement est soumis au RGPD. Le lendemain, s'il est au Maroc, tous les messages qu'il enverra par WhatsApp ne seront plus soumis au RGPD. OK ? Bon, vous n'êtes pas concerné parce que le diocèse, le territoire est limité ici à Franche-Comté. Vous n'avez pas de représentation quelque part en dehors du territoire, donc vous n'êtes pas concerné. Mais c'est intéressant à savoir. Voilà. Par ce petit jeu-là, on peut dire aujourd'hui que le RGPD est quasiment universel. Parce qu'en fait, il va contraindre des opérateurs étrangers, et ces fameux GAFAM, hein, avec qui, chez qui on a beaucoup de comptes, hein, qui sont étrangers, ben, sont soumis au RGPD. Hein, ce qui pose un peu un problème aujourd'hui avec les Américains. Et d'ailleurs, hein, l'aigle impérial, je l'ai mis sur le territoire américain, parce qu'aujourd'hui, ils sont là. Dans quelques temps, je le mettrai peut-être sur le territoire chinois, parce que je pense qu'un jour, ils dépasseront les Américains. Et voilà. D'une certaine façon, le RGPD, retenez bien ça, il est international. Je ne sais pas si vous travaillez, par exemple, pour la messagerie, pour envoyer des messages Internet, hein, des mails groupés, est-ce que vous utilisez MailChimp ? Ça vous dit quelque chose, non ?
Oui, MailChimp.
Hein ? Eh bien, MailChimp, c'est un Américain. Donc, vous envoyez des données aux États-Unis. Vous voyez ? Vous êtes concerné d'une certaine façon par ce caractère universel du RGPD. Non. Si vous utilisez Microsoft, c'est la même chose. Ouais. OK ? Alors, on va passer à quelques définitions. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. On peut identifier une personne de façon... directe, un nom, un prénom, hein. En ce qui me concerne, Christophe Grassin, voilà, il n'y en a pas beaucoup comme moi, enfin on est quelques-uns en France, mais ça me permet d'identifier. Si on rajoute ma date de naissance et mon lieu de naissance, on va tomber uniquement sur moi, d'accord. De façon indirecte, bah, ça peut être un numéro de téléphone, un compte client par exemple, ce sont des données qui permettent d'identifier de façon indirecte. Retenez un sens très large, toute donnée qui permet à un moment soit d'identifier ou soit de tracer le profil d'une personne. Vous prenez la facture d'un garagiste, vous allez dans un garage automobile, hein, de réparation automobile, vous prenez n'importe quelle facture dans le fichier et vous regardez la facture d'entretien de la voiture. En regardant le type de voiture, si c'est une Audi ou si c'est une Logan, vous voyez le niveau de vie de la personne. Hein, ce n'est pas le même prix comme voiture. Le nombre de kilomètres effectués dans l'année, ça peut dire des choses. Cette personne se déplace beaucoup. Donc, c'est peut-être pour des raisons professionnelles où elle ne se déplace pas beaucoup, donc elle est assez sédentaire. Vous pouvez voir la façon dont elle conduit, s'il y a beaucoup de travaux à faire, si elle est la voiture, elle est accidentée, gravement accidentée, enfin voilà. En recoupant ces données avec certaines autres, en fait, en recoupant des données, on arrive à tracer le profil des personnes. Et c'est très intéressant. J'ai regardé un film il n'y a pas très longtemps, alors je ne sais plus ce que c'était comme film, il y a un mois ou deux, et dans l'enquête, en fait, c'était un truc policier, et en fait, ce qui a permis de trouver le responsable, en fait, c'est que donc, la personne garée, c'est aux États-Unis, a garé sa voiture dans le parking de l'immeuble où il y a les bureaux, et il y a un voiturier qui est chargé de surveiller les voitures. Et ce voiturier-là, tous les jours, il prenait en photo le kilométrage des véhicules pour pas qu'on l'accuse d'utiliser les véhicules. Voilà. Et il dit, ben, moi, je me suis aperçu tel jour que la personne avait fait, d'habitude, elle a fait 11 km, c'est-à-dire la distance entre son domicile et son bureau, et que là, ce jour-là, il a fait, je ne sais plus combien de kilomètres, beaucoup plus, et en regardant sur une carte, ben, ils se sont rendu compte qu'il allait à tel endroit, là où le méfait a été commis, en fait. Vous voyez ? Et donc, c'est en utilisant cette donnée-là de kilométrage qu'on est arrivé à trouver, vous voyez ? Donc, en utilisant des données comme ça, et en les recoupant à certaines autres, on arrive à avoir à identifier une personne, ou à voir le profil d'une personne. Donc, retenez vraiment le sens très très large de données à caractère personnel. Ça va au-delà du nom et du prénom. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, indirectement, c'est à travers des noms, des prénoms, indirectement un numéro de téléphone. Bon, voilà, par exemple, Belmondo, que vous connaissez tous, quand vous savez ça, vous voyez tous l'image de Jean-Paul Belmondo à la tête, hein, voire de Paul Belmondo. Donc, on trouve facilement. Et à partir d'un croisement, ça c'est la CNIL qui donne cet exemple qui est assez amusant. Voilà, si vous ne regardez pas ici, mais vous regardez, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le prénom, c'est que c'est un garçon qui a 19 ans, qui habite 5 rue de la gare à Niort, qui est au lycée Montaigne à Bordeaux, et sa passion c'est le jazz. Cherchez un petit peu sur Internet, sur Facebook, ce genre de choses. Alors, il n'existe pas, c'est effectif. Hein. Mais si vous allez chercher un petit peu sur ces réseaux sociaux, ben, vous arrivez à trouver que c'est Marc Pelletier. Voilà. En recoupant toutes ces données-là. D'accord ? Donc, j'imagine ici, avec la pastorale des jeunes, hein, on a beaucoup de données comme ça. En recoupant, sans avoir le nom des personnes, on arrive à identifier très facilement une personne. Allez, une petite question. Est-ce que ça, c'est une donnée à caractère personnel ? Ça, c'est le président du conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont. Est-ce que, donc, j'ai le droit de mettre sa photo parce qu'en fait, c'est une personne publique. Voilà. Est-ce que, donc, c'est une donnée à caractère personnel ? Je vous ai quasiment donné la réponse, là. Oui, on est d'accord, hein. Un numéro de SIRET. Vous savez ce que c'est, un numéro de SIRET ? C'est un identifiant, hein. Donnée à caractère personnel ou pas ? Alors, tout dépend de l'entreprise, en fait. C'est un piège. Si c'est une entreprise personne morale, non. Si on est sur une entreprise individuelle, l'IRL, hein, oui, parce que derrière, on est une personne physique. Cette carte de visite, hein, Jacques Claus, SARL, conception métallique, serrurerie. Donnée à caractère personnel ou pas, cette carte ?
Oui. Je pense qu'il y a suffisamment d'infos concernées la personne.
Non, ça n'en est pas. Parce que c'est une SARL. Donc SARL, c'est une personne morale, et c'est le nom de la SARL. Alors qu'il y a le nom certainement du créateur, hein, mais là on est sur une personne morale. C'est le piège, j'aime bien donner des pièges. Bon. Un IBAN. Bon, même chose, oui. Pour la majorité des personnes, derrière on est une personne physique, on peut parfois avoir des personnes morales, hein, dans un IBAN d'une entreprise. Donc là on est sur, c'est pas donné à caractère personnel, mais dans la majorité des cas, oui, on serait sur donné à caractère personnel. Tag d'immatriculation. Voilà, mais, sauf si c'est un véhicule d'entreprise, personne morale, mais la plupart du temps, on est sur des véhicules personnels, et derrière, on arrive à recouper. Voilà. Je ne sais pas si vous regardez, mais si vous avez vu ça, dernièrement, je suis allé chez le garagiste, puis j'ai changé de voiture, rien qu'en donnant le numéro, mon numéro de plaque, ils arrivent à retrouver toutes les caractéristiques du véhicule. Ouais, ils ont tout maintenant. Hein. Voilà. Donc, on arrive maintenant à voir. Alors, c'est les professionnels qui ont accès à ça. Hein. Il y a des logiciels derrière et puis il y a des droits d'accès. Hein. Mais celui qui arrive à pirater ça, il a tout. Hein. Ah oui, là, il fallait. La voix. Est-ce que la voix est une donnée à caractère personnel ?
Ça permet d'identifier la personne.
Ouais, ça permet d'identifier une personne. On va même plus loin dans la biométrie, la fréquence du pas d'une personne. On a tous une fréquence de pas individuelle. Et la façon dont on pose le pied est individuelle. Si on arrive à mesurer le bruit et la fréquence, on peut identifier une personne. On va aujourd'hui très loin avec nos outils technologiques sur l'identification d'une personne. Bon, dans le diocèse, on n'en est pas encore là à identifier les personnes avec la fréquence du pas. Et heureusement, mais ça va aujourd'hui, ça va très très loin dans l'identification des personnes. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir d'une donnée à caractère personnel, c'est que tout peut être donné à caractère personnel. Enfin, c'est vraiment très large. Donc il faut vraiment, quand vous traitez des données qui sont liées à une personne, être très très sensible là-dessus. Très prudent. Okay. Il y a une particularité dans le RGPD, ce sont les données qui relèvent des origines raciales et ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses, les appartenances syndicales, les données génétiques, biométriques, toutes les données de santé, la vie, orientation sexuelle, et les condamnations pénales et infractions. Ça, ces données-là, ce sont des données particulières, on dit données sensibles, et qui nécessitent des mesures de protection particulières. Normalement, le traitement de ces données-là est interdit, sauf dans un certain nombre de cas. Et pour les associations, les associations à but non lucratif qui poursuivent une finalité politique, syndicale, religieuse en l'occurrence, on est autorisé à les traiter à condition qu'on ne diffuse pas ces données-là sans l'autorisation des personnes concernées. Voilà, donc nous, au sein de l'Église, on peut effectivement traiter ces données-là, données de santé ou données biométriques, génétiques, c'est pas notre cas. Les condamnations, on n'a pas normalement pas lieu de le faire, bisexuels non plus. Mais c'est surtout ça. Puis les données de santé, on peut parfois être amené à les traiter. Voilà. On a le droit de faire, mais de façon très très cadrée. Le numéro de sécurité sociale, c'est une donnée très très sensible. À travers ce fameux numéro, on a beaucoup de choses. Donc le 1. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un qui a sur sa carte un 1 ou un 2, et quand vous le regardez physiquement, ça ne correspond pas. On est d'accord. L'année de naissance aussi. Pour un employeur, lui, il est trop vieux, je ne vais pas le prendre. Ça peut être un moyen de discrimination. Le mois, non, mais le département de naissance. On peut voir si c'est quelqu'un qui vient d'un département d'outre-mer ou si c'est quelqu'un qui était à l'étranger. Donc moi, si j'aime pas les Bretons, je prends pas de Bretons. Non, mais on peut faire des discriminations. C'est un numéro qui est très très sensible et qui est très protégé. L'utilisation est autorisée par un décret. Au sein de l'Église, on n'a pas le droit d'utiliser. Sauf pour les obligations salariales. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit d'utiliser. Voilà, tout ça c'est interdit. Je vous le mettrai, je vous donnerai la présentation et puis vous pourrez le diffuser. Voilà ce que je vous disais, traitement organisme à but non lucratif poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse, on peut le faire, ou dans le cadre de la prise en charge sanitaire, par exemple les pèlerinages à Lourdes, l'hospitalité récupère des données de santé, et là c'est dans le cadre de la prise en charge sanitaire des malades qui vont à Lourdes, où on peut traiter ces données-là. Ou pour les mineurs, parce qu'il y a des PD pour les mineurs. Bon, qu'est-ce qu'un traitement? C'est toute manipulation de données. Je vais un peu vite parce que je crois que je suis trop bavard. Tout ce qui est manipulation de données. Collecte de données, que ce soit sur un formulaire papier ou sur un site internet, enregistrement, copie, photocopie, diffusion, mail, enfin voilà. Dès que vous manipulez des données, vous faites un traitement. D'accord? Vous voulez transmettre à quelqu'un, retenez ça au sens très large. Dès que vous les manipulez, c'est un traitement. Même le stockage, ce sont des traitements. D'accord? Et je vous l'ai dit, tout à l'heure je viens de vous le dire, ce ne sont pas forcément des données qui sont informatisées. Ça marche aussi sur les données papier. D'accord? Donc vous avez un formulaire papier d'inscription au KT, vous stockez ça dans un classeur, le formulaire de tous les inscrits, ça c'est soumis au RGPD. Même si c'est stocké dans une armoire, ce n'est pas du tout informatisé, mais le RGPD s'applique. D'accord? Donc beaucoup de gens pensent que c'est uniquement ce qui est informatique. Non, c'est vraiment tout traitement. Voilà. Ça, je vais passer très rapidement. Le RGPD dit qu'en fait, est soumis au règlement uniquement les données qui sont structurées. Là, si je prends une liste des noms que je fais comme ça sur un coin de table, par exemple au restaurant, là, sur le bout de la nappe, j'écris les noms des personnes que je dois convier à la prochaine réunion de travail. Là, c'est ça sort de mon cerveau dans cette liste-là. Ce n'est pas structuré. Ça, ce n'est pas soumis au RGPD. Je rentre à mon bureau, je commence à les mettre sur un fichier Excel et puis je les classe par ordre alphabétique pour les contacter. Là, c'est structuré puisque c'est classé et donc c'est soumis au RGPD. Bon. généralement, tout ce qu'on fait, c'est structuré. D'accord ? Voilà, retenez bien, hein, ça s'applique également aux données paquets. Hein. Ici, on a le fameux... l'obligation là, de tout employeur d'avoir le registre des salariés. Et puis, et tout ce qui est numérique aussi s'applique. Qu'est-ce qu'un responsable de traitement ? C'est toute personne qui détermine la finalité et les moyens du traitement. La finalité, c'est à quoi sert mon traitement ? Voilà. L'inscription à la catéchèse pour organiser la catéchèse sur l'année en cours. Ça peut être un traitement pour célébrer un mariage. Ça peut être un traitement pour collecter le denier de l'Église. Ça peut être un traitement pour organiser cette séance d'information qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Les moyens, ce sont, en ce qui nous concerne, ça a été calé avec M. Grassin, donc par un échange de mail. Hein, donc il y avait mon adresse mail donnée à caractère personnel, hein, le lieu, le moyen, le rendez-vous. Vous invitez aussi à cette réunion. Voilà, il y a des données à caractère personnel. Donc les moyens, c'était à partir essentiellement des l'usage d'adresse mail par la messagerie. D'accord ? Donc c'est vraiment ça. On peut considérer au sein des diocèses que le responsable des traitements, c'est l'évêque, parce que c'est lui qui est en haut de la pyramide. D'accord ? Mais il peut avoir délégation au niveau à l'économe, dans certains domaines, mais on a aussi les curés de paroisse qui ont une certaine autonomie, une certaine responsabilité pastorale, et qui vont décider d'organiser la kermesse de la paroisse. Et donc, de faire la liste de tous les paroissiens qui vont être invités, de confier certaines tâches, déléguer certaines tâches à d'autres paroissiens. Donc là, on va traiter des données à caractère personnel pour répartir les rôles, pour répartir la liste d'invitation, etc. Donc là, ce n'est plus l'évêque, mais c'est le curé qui va être le responsable de traitement. On peut également avoir au sein du diocèse, hein, au sein d'un service de diocèse, un responsable de service qui va décider de mettre en place un traitement pour bien faire son travail. Et c'est lui qui va déterminer la finalité et le moyen. Alors, il y aura peut-être ou moins l'accord ou précis de l'économe, ou il va le peut-être faire en autonomie parce que c'est dans le cadre de ses responsabilités, et on pourra estimer que c'est lui le responsable du traitement. D'accord ? On revient toujours à celui qui détermine la finalité et les moyens. Ça peut être parfois partagé. Hein ? On peut avoir plusieurs acteurs qui vont définir ensemble, et à ce moment-là, ils sont co-responsables. On a le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est quelqu'un qui va traiter les données pour le compte d'un donneur d'ordre. Ceux qui utilisent donc MailChimp pour envoyer des mails, le sous-traitant, c'est MailChimp. D'accord ? Si vous mettez les données sous Dropbox, Dropbox, c'est votre sous-traitant. Voilà. Donc, si vous utilisez des logiciels, bien souvent, ce sont des logiciels. Mais si vous envoyez, par exemple, des appels aux dons par courrier postal, et vous faites appel à un routeur, un imprimeur routeur qui va envoyer ça par la poste, le routeur, c'est un sous-traitant. Donc, il va avoir la liste de tous les destinataires, et c'est lui qui va imprimer ça sur les lettres, hein, les noms et les adresses sur les noms, et puis qui va déposer ça à la poste. C'est un sous-traitant. D'accord ? Il opère pour lui. Et il doit être conforme au RGPD lui aussi. Les six principes du RGPD, à bien retenir. Tout traitement doit être légal, il doit être loyal et il doit être transparent. La licité, c'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur un fondement juridique. Il doit être loyal, c'est-à-dire qu'on doit respecter les droits des personnes concernées. Et il doit être transparent, c'est qu'il y a un devoir d'information. J'y reviens après avoir présenté les autres principes. Le deuxième... On a une obligation de limitation des finalités. On ne peut pas utiliser des données ou collecter des données en disant « Bon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on les collecte quand même. Voilà, c'est pour un usage général pour le diocèse. » Voilà, ça ne marche pas. Quand on collecte et quand on traite des données, c'est pour une finalité qui a été définie au préalable et qui est précise et claire et compréhensible par les personnes concernées. Je collecte vos données pour faire appel aux dons. Ou je collecte vos données pour que vous puissiez inscrire votre enfant au catéchisme. Et également, j'utiliserai ces données pour vous solliciter dans le cadre du denier d'église. Voilà, les finalités sont définies, elles sont précises. Et une fois qu'elles sont définies, donc elles sont déterminées, elles sont explicites, légitimes, et on ne les traite pas ultérieurement pour d'autres choses. On ne va pas utiliser les données collectées dans le cadre de l'inscription au catéchisme pour les envoyer, par exemple, au CCFD ou à DT Clermont-Monde, de manière à ce qu'eux puissent faire les appels aux dons. Ça, non, c'est pas prévu au départ. Donc on ne le fait pas. On ne le fait uniquement pour les finalités qui ont été définies au préalable.
On peut avoir plusieurs finalités quand on veut.
On peut avoir plusieurs finalités. Mais une fois qu'elles sont définies, on ne change pas. Ou alors, on peut changer, mais à ce moment-là, il faut recontacter toutes les personnes et leur demander l'autorisation. Généralement, ils disent non.
Comment ça se passe avec la location de fichiers ?
Comment
ça se passe avec la location de fichiers ?
La location de fichiers, eh bien, au préalable, il faut prévenir les personnes qu'on va louer les fichiers à tel ou tel organisme.
Ah ouais. Parce que je sais que le coup, ils ont une carte de manche pour ce moment.
Ouais, ouais. Ben, aujourd'hui, c'est un gros problème. Parce qu'il y a des, métiers. Non, mais il y a des métiers. Hein. C'est un métier, un broker de data. Hein. C'est des gens qui achètent ou qui louent des données. Enfin, il y a ou parfois échanges financiers à travers ça, transactions financières hein, à travers ces échanges, ou parfois ça ne se fait pas. Hein. Il n'y a pas d'échange entre organismes et l'église, bien souvent il n'y a pas de tout. Hein. C'est-à-dire qu'au petit frère des pauvres, je leur donne 3000 adresses, eux ils m'en donnent 2500, la prochaine fois ils m'en donneront 500. Enfin, il y a des échanges comme ça qui sont à travers des agences marketing qui sont un peu spécialisées pour l'église. Voilà. Jusqu'à ce présent, ça se faisait de façon totalement sauvage. Depuis qu'il y a le RGPD, ça casse un peu le business. Quoi. Moi, j'ai eu des personnes qui me disaient « Comment ça se fait que vous avez que Dieu 16 à mes données ?» Enfin, c'est un sanctuaire, hein, Comment ça se fait qu'ils ont mes données ?» Autre principe, la minimisation des données. On utilise des données qui sont adéquates à ce qu'on veut faire, qui sont pertinentes et qui sont limitées au strict nécessaire. On ne collecte que ce que l'on a vraiment besoin. Pour organiser, par exemple, un pèlerinage à Lourdes des jeunes, alors non, c'est un mauvais exemple parce qu'on en a vraiment besoin de la date de naissance. Mais par exemple, vous organisez pour des jeunes une après-midi récréatif dans une paroisse pour les jeunes, hein, ou même au sein du diocèse, hein, l'apostolat des jeunes. Et puis ben, voilà, vous allez organiser des groupes par tranche d'âge. Ben, vous n'avez pas besoin d'avoir la date de naissance complète. L'année de naissance suffit. Vous voyez ? Bon, c'est un peu extrême mon exemple. Mais généralement, j'ai le cas sur quand j'ai accompagné une association d'un quartier en difficulté où ils organisaient des séances de foot l'après-midi, le mercredi après-midi pour occuper les jeunes. Hein. Dans la fiche d'inscription, on demandait la date de naissance des parents. Bah, c'est pas utile. Pour organiser une séance de foot le mercredi après-midi des enfants, on n'a pas besoin de se connaître l'âge des parents. Voilà. Donc, on ne collecte pas. D'accord ? Je le vois souvent dans le cadre des pèlerinages. Bien souvent, les diocèses collectent le numéro de sécurité sociale. On n'a pas le droit de le faire. La personne doit être porteur de sa carte vitale et de sa carte mutuelle. Et on n'a pas à le collecter. Sauf pour le pèlerinage à Lourdes des malades. Voilà. On a une obligation d'exactitude. Les données doivent être maintenues exactes. Alors, très difficile, hein, parce qu'il y a une personne qui est partie depuis 2 ans ou qui ne donne pas signe de vie depuis 2 ans, et on est impossible de mettre à jour sa fiche, hein, puisqu'en fait, on n'a pas de nouvelles. Hein. Mais en revanche, lorsqu'elle demande à ce que ça soit rectifié, là, on a obligation de le faire tout de suite. C'est surtout ça. Limitation de la conservation, ça c'est très important. On ne conserve pas les données indéfiniment. On doit les limiter aux besoins. Par exemple, les contrats, les donateurs, hein, moi dans certains diocèses, je vois encore des fichiers de donateurs, les gens, on ne sait même pas s'ils sont encore vivants d'ailleurs, qui datent des années 80, j'en ai vu ça dans les diocèses, quoi. Hein. On n'a pas besoin d'en garder aussi longtemps que ça, hein. Normalement on détruit. Plus on garde, plus on a une obligation de protection. Hein.
La durée, elle est limite au
départ ? La durée, on doit la déterminer en fonction du besoin.
Ah,
voilà. Il y a certaines lois qui imposent des durées. Par exemple, tous les documents comptables, hein, on sait tous qu'on doit les garder 10 ans hein, pour en cas de contrôle fiscal. Sur des factures, vous avez des données à caractère personnel. Souvent, vous avez le destinataire de la facture. Si c'est une personne physique, nom, prénom. Donc, données à caractère personnel. Donc là, la loi les impose de garder 10 ans. Donc, on les garde 10 ans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 périodes de conservation des données. On a la première période, c'est-à-dire que les données, on les utilise parce que c'est dans une base active. On en a besoin parce qu'on traite les données. Voilà, on en a besoin pour l'année de catéchisme, parce que la personne est un donateur régulier, etc. Ou parce que le pèlerinage qu'on organise en Terre Sainte, il n'est pas encore fini. Et puis, 2 semaines après le pèlerinage, tout le monde aura payé, tout sera réglé. Là. Une fois que le traitement est fini, ces données-là, on les place en archivage intermédiaire. On les garde pour des durées, parce qu'on peut avoir un contrôle fiscal, 10 ans par exemple. Tout ce qui est contractuel, par exemple, inscription à un pèlerinage, je m'inscris, c'est un contrat passé entre le diocèse et puis le pèlerin. La loi dit que le contentieux, on a 5 ans pour réclamer derrière. Si le pèlerin a quelque chose à faire valoir après son pèlerinage, il a 5 ans pour se retourner contre le diocèse. Voilà, donc on doit conserver tout l'ensemble des pièces pendant 5 ans. Voilà.
Après, il y a tout ce qui est catholicité.
Alors, catholicité, c'est encore autre chose. Là, on rentre dans un autre domaine. C'est un peu à part, parce que là, on les garde en archives définitives. C'est la troisième étape. Les archives définitives, généralement, ça existe que très peu. Il y a l'État qui a les archives nationales, ou les archives départementales, enfin tout ce qui est organisme public qui a ses propres archives. Et puis il y a l'Église qui a ses archives. Certaines entreprises peuvent avoir des archives, mais à condition qu'elles aient un intérêt historique, scientifique, par derrière. Voilà. Donc en fait, une entreprise toute simple qui fabrique des pots de yaourt vides, elle n'a pas besoin d'avoir d'archives parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. D'accord. En revanche, un diocèse a ses archives parce que en fait, les archives diocésaines existent avant la République, donc elles existent et existeront toujours. C'est une particularité de l'Église. Mais voilà, bien souvent, ça s'arrête à la fin de la période d'archivage intermédiaire. Une fois que tous les contentieux sont éteints, tous les droits de contentieux sont éteints, on détruit les pièces. D'accord. Donc, on ne conserve pas indéfiniment les données en se disant, ben, on ne sait jamais, ça pourra servir un jour ou l'autre. Non. Au bout d'un moment, on les détruit. Plus on conserve, plus on a une obligation de sécurité sur ces données-là. Voilà, la sécurité, c'est ça. On doit maintenir la disponibilité des données. Lorsqu'on en a besoin, on doit pouvoir les exploiter. Et on peut très bien avoir la personne qui réclame à connaître ces données. Donc là, il y aura un besoin de les avoir. Hein. On doit les maintenir intègres, hein, ne pas les altérer. Enfin, j'ai vu parfois un serveur qui était dans une salle et puis il y avait une inondation, hein, enfin, la clim qui coulait par goutte à goutte sur le serveur. Au bout d'un moment, le serveur il a dit « Moi, il y a trop d'humidité, j'arrête de travailler. » Ils ont perdu toutes les données. Vous voyez ? Donc, on doit maintenir. Et puis, on doit maintenir la confidentialité, qui est très, très importante, surtout pour nous, Église, où on a quand même des données confidentielles. Hein. Je connais un diocèse où il y a eu une erreur et ils ont diffusé... alors, c'était les donateurs, en fait. Hein. Il y a eu un... Entre la liste des noms des donateurs et leur adresse, il y a eu un décalage. Donc, les gens ont reçu le reçu fiscal de l'autre personne. Voilà. Bon, voilà, c'est des erreurs techniques comme ça qui peuvent arriver. Mais là, au niveau confidentialité, c'était pas très bon, quoi. Hein? Parce que le reçu fiscal était au bon nom, mais c'était juste l'adresse d'envoi qui était au bon nom. Donc, on savait ce que telle personne avait donné. Voilà. Donc, ça, on a une obligation qui est très forte là-dessus. Très, très forte. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur les données que vous utilisez. Et aujourd'hui, on en utilise beaucoup. On utilise des données de santé pour les pèlerinages. Pour les mineurs, on en utilise beaucoup. Pour tout ce qui est don, pour tout ce qui est sacrement. Enfin, voilà. On a beaucoup de choses. Et au sein de l'Église, il faut être très, très vigilant pour protéger ces données. Et justement, on en parlait tout à l'heure. Hein, y a un projet de CRM qui vous a été un petit peu parlé. Hein. Ça, c'est un outil qui est très important, qui va faciliter la disponibilité, le maintien de l'intégrité et la confidentialité. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des diocèses que je connais ? C'est qu'il y a un éparpillement total des données. Chacun se crée son propre petit fichier sur son calepin, sur l'ordinateur familial, etc. L'ordinateur familial qui est utilisé par les enfants qui fait des jeux en ligne. Je vous ai parlé de la cybercriminalité. Hein. Donc, ils arrivent très facilement à remonter. Hein, si tout ça, c'est pas protégé. Le fait d'avoir un outil qui va centraliser toutes les données et qui est avec des accès qui sont protégés et qui sont à telle personne et pas à une autre, ça permet de répondre à ce principe-là qui est très très important. On en parlera après, mais il faut que je me dépêche. Je reviens, je vous ai parlé, premier principe, licéité du traitement. Hein, la licéité. On a aujourd'hui 6 cas sur lesquels on peut appuyer le traitement. Il n'y en a pas d'autres. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai ouvert ce métier-là, j'ai jamais eu besoin d'en trouver un autre parce que à chaque fois, ça rentre. Soit vous avez la personne qui vous autorise à traiter les données. C'est ce qu'on appelle le consentement. On entend beaucoup parler. Et d'ailleurs, il est utilisé de façon un peu abusive parce que le consentement, il doit être donné gratuitement. Il ne doit pas avoir d'échange. Hein, c'est-à-dire que je donne mon consentement, mais je ne dois rien avoir en retour. Donc, je peux consentir à ce que l'association diocésaine m'envoie régulièrement sa newsletter. Voilà, en échange, j'ai ça, mais voilà, je donne rien d'autre. C'est pas vraiment un très bon exemple, en fait. Mais le droit à l'image, pardon. Voilà, ça, c'est mieux, le droit à l'image. Hein. Je consens à ce que l'association diocésaine utilise ma photo. Là, vous m'avez pris en photo, d'ailleurs, tout à l'heure. Vous allez peut-être la publier sur sur le truc. Voilà, je vous autorise à le faire. J'ai rien en retour. Je donne mon consentement. Il est libre, mon consentement. Il est valable. On l'utilise très peu. On l'utilise surtout sur le droit à l'image. On a le cadre de l'exécution d'un contrat. Contrat de travail. Il y a un contrat de travail qui est passé avec une personne. pour que la personne puisse travailler, eh ben, je vais utiliser très ces données pour lui donner un droit à accès à l'ordinateur, pour utiliser, lui donner ses chèques restaurants, etc., etc. Donc, on a, c'est l'exécution d'un contrat de travail. Les obligations légales. La loi vous impose parfois à traiter des données, notamment à l'employeur. Communiquer à l'URSSAF les cotisations mensuelles. On utilise pour ça le numéro de sécurité sociale pour identifier la personne. Donc là, on utilise voilà, l'obligation légale. Ça peut être la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Ça, j'ai jamais vu pour l'instant. Hein. C'est quand vous avez une personne, c'est dans le domaine de la santé. Hein. Une personne dont l'état de santé est gravement exposé, on peut utiliser ces données à caractère personnel. C'est le milieu de la santé ou c'est dans le cadre des ONG qui font ça à grande envergure pour dans le cadre de contamination, ce genre de choses. Mission d'intérêt public, ça concerne surtout les organismes d'État. Et puis on a un autre qu'on utilise assez souvent aussi, c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement. Exemple, dans une entreprise, vous avez des salariés, et pour que les salariés, alors imaginons que ce soit une centaine de salariés, déjà donc une entreprise assez importante, et pour que tout le monde arrive bien facilement à s'identifier, savoir qui fait quoi, le patron de l'entreprise décide de faire un annuaire interne. Il y en a peut-être ici d'ailleurs chez vous, vous avez peut-être un annuaire interne avec le nom de salarié qui fait quoi, ou des bénévoles qui fait quoi, et machin, tout voilà. C'est un traitement de données à caractère personnel, cet annuaire-là. On va utiliser l'intérêt légitime. C'est l'intérêt légitime de l'association diocésaine de faire connaître qui fait quoi au sein de notre... Donc, c'est un traitement. On va utiliser ce fondement-là. Mais cet intérêt légitime ne doit pas porter préjudice aux personnes concernées. Imaginons que dans une entreprise, il y ait cet annuaire-là et puis que le patron décide en même temps de mettre la photo pour qu'on voit bien qui c'est. Si sur une photo, il y a une personne où tout le monde se moque d'elle parce que la photo, elle ne la met pas vraiment en valeur, la personne, et bien là, l'intérêt de la personne va primer sur l'intérêt légitime et la publication dans l'annuaire de la photo, et bien, il ne sera pas légal. Voyez. Donc l'intérêt légitime, on peut l'utiliser, mais à condition que ça ne l'emporte pas sur les droits et intérêts de la personne concernée. Voilà. On va beaucoup utiliser le contrat, l'intérêt légitime, le consentement. Denier de l'Église, on s'appuie sur l'intérêt légitime. L'intérêt légitime de l'Église de pouvoir à ses propres moyens financiers.
Le consentement doit forcément être écrit.
Alors le consentement, il peut être implicite, il peut être oral. On a plutôt intérêt, parce qu'en fait, il faut en amener la preuve après. On a plutôt intérêt à l'avoir écrit.
Et du coup, s'il n'y a pas de consentement, si la personne ne répond pas, on fait quoi ? On considère qu'elle n'accepte pas ?
Alors ça dépend, en fait. Si on n'arrive pas à utiliser ces fondements et qu'on n'a que le consentement, si elle ne donne pas le consentement, on ne fait pas.
En fait, juste pour être clair et compliqué, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, quand on fait une activité, on n'est pas obligé d'avoir tous ces cas qui sont remplis.
Il faut un.
Que l'un des deux soit valide, donc je ne suis pas obligé d'avoir toujours le consentement des gens. Si j'ai établi un contrat, pas besoin de consentement. Le contrat suffit. Donc le consentement, il s'applique en certains cas quand on n'a pas pu s'appuyer sur d'autres cas pour légitimer le traitement des données.
Quand on fait l'annuaire diocésain, on envoie
les
demandes
aux
gens.
Leurs infos.
Alors là, pour certains, l'annuaire diocésain, pour certains, il faut le consentement. Je ne sais pas sur votre annuaire diocésain, est-ce que vous mettez par exemple le prénom des épouses des diacres ?
Oui.
Et là, il faut leur consentement. En revanche, pour le diacre, il n'y a pas besoin. Pas besoin du consentement. Ça va être l'intérêt légitime de l'Église. Pour les bénévoles, les laïcs, si vous mettez leur adresse personnelle, il faut le consentement. Voilà. Parce que c'est une adresse personnelle qui n'est pas dans le cadre de leur mission, voilà, qui n'est pas une adresse professionnelle. Voilà. Donc c'est assez compliqué pour le diocèse de Saint-Lin. Tout dépend du cas. Si c'est un prêtre, si c'est pas un prêtre, si c'est un laïc, si c'est un diacre, l'épouse d'un diacre. En fonction du type de personne, on va utiliser des fondements différents. Donc c'est vous qui vous occupez du... On aura la première dans ce soir. Alors on a un droit d'information. Vous avez parlé de la transparence et de l'information. Vis-à-vis des personnes concernées, on doit être transparent. On doit bien leur expliquer ce qu'on fait. Ils ont un devoir et nous, quand en fait on traite nos données, on a envie de savoir comment nos données sont traitées. Et c'est légitime. Hein, et on doit les informer. Donc à chaque fois qu'on collecte des données, on doit informer les personnes sur ce qu'on fait des données. Et le RGPD donne un certain nombre de listes, liste un certain nombre de points qu'on doit déclarer, qui est responsable du traitement, combien de temps on va conserver les données. Enfin voilà, il y a une dizaine de la finalité. Hein, est-ce qu'on les transfère en dehors de l'Union européenne ? Voilà, il y a un certain nombre de points à préciser. C'est important. Ça, c'est une des premières choses que regarde la CNIL, c'est est-ce que vous informez les personnes ? Ça prend de la place, hein, même en écrivant en taille 7, ça prend de la place comme ça. Alors on trouve des astuces, hein, c'est-à-dire qu'on met on fait ce qu'on appelle à deux niveaux, hein, sur un formulaire de collecte de données, on met vos données sont traitées par le diocèse et ou la paroisse de pour plus d'informations, et puis on redirige les gens sur le site internet du diocèse. Et là, on a une page complète avec l'ensemble des données qui sont bien complètes. Voilà, on utilise des astuces comme ça pour ne pas prendre trop de place sur les formulaires et puis pour envoyer. Voilà. Mais ça, c'est vraiment très très important d'informer les personnes. Voilà. Et puis de respecter les droits. Les personnes ont des droits. Vous avez des droits vis-à-vis des organismes qui traitent vos données. Hein, si vous êtes salarié du diocèse, vous avez des droits vis-à-vis de votre employeur. Vous avez des comptes à la banque, vous avez des comptes à la sécurité sociale, enfin, j'en ai cité quelques exemples, mais vous faites aussi peut-être des achats sur Internet, etc. Donc vous avez créé des comptes chez... Hein, vous avez peut-être une carte de fidélité Intermarché ou Auchan, Carrefour, j'en sais rien. Vous avez des droits. Les droits, c'est un droit d'accès. Vous demandez, je veux savoir toutes les données que vous avez me concernant. Moi, je l'ai fait pour mon ordinateur. Il était en panne, c'était un problème de fabrication d'Apple. Je le savais, et pour le faire réparer, ben pour me rembourser les frais, Apple me demandait une facture. Je ne trouvais plus ma facture. Je sais que j'ai acheté à la FNAC, donc j'ai demandé à la FNAC accès à mes droits. J'en ai demandé. Ils m'ont envoyé l'ensemble des données, ils m'ont envoyé la facture. Voilà. Donc vous avez prouvé que ça, c'est vos droits. On a un mois pour répondre, ils ont mis 6 mois, mais bon, peu importe, j'ai eu le papier que je voulais. Hein. Droit de rectification. Vous êtes trompé sur l'orthographe de mon nom, vous êtes trompé sur mon adresse, je n'habite pas au 18, mais j'habite au 20, et à chaque fois, c'est mon voisin qui vient m'apporter mon client, ça me coûte du café à chaque fois. Changez, s'il vous plaît, mon adresse. Vous avez droit d'exiger ça, d'accord? Vous avez droit d'effacer, demander l'effacement. Ça ne marche pas avec les impôts, j'ai essayé. Ils n'ont pas vu. Dommage. Hein, dans certains domaines, on fait certaines choses, dans certaines conditions, on peut demander l'effacement. Tous les organismes de publicité, ceux qui vous téléphonent tout le temps, là, vous avez le droit de demander l'effacement. C'est assez difficile de faire appliquer, mais c'est un droit. Droit d'opposition. Droit d'opposition, il s'applique pour tout ce qui est démarchage commercial, et puis pour le consentement. Hein. Je m'oppose, j'ai donné mon consentement, mais je retire mon consentement, je m'oppose. Hein. Et tout ce qui est intérêt légitime, comme je l'ai dit. D'accord ? On a droit à la limitation, en fait, c'est la suspension du temporaire du traitement. Je ne suis pas d'accord avec ma photo que vous avez mise sur l'annuaire de l'entreprise. Là, elle me porte un préjudice. Je demande à ce que vous suspendiez le traitement. Alors, récupérer tous les annuaires papier, ça va être difficile, mais s'il est sur Internet, on l'enlève, on le retire de l'intranet de l'entreprise. Et puis, on se met d'accord avec des avocats ou pas, si on n'arrive pas à régler à l'amiable. Et puis, donc, on suspend temporairement le traitement. La portabilité, on le fait tous quand vous changez d'opérateur de téléphone mobile. Passer d'un autre, c'est la portabilité. Hein. Ça s'applique à tout le monde normalement, dès lors qu'on a des données numériques. Je suis dans le Calvados, moi mes données sont dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. Imaginons que je vienne habiter ici parce que la région est superbe. Je peux demander, ça me fait rire, parce que j'aimerais bien voir comment ça me fait. Si y a un CRM, ça marche, mais sans CRM, ça ne marchera pas. À ce qu'il transfère toutes mes données qu'il y a au sein du diocèse pour les envoyer ici. C'est la portabilité, je pourrais le demander. Ça serait difficile à faire, mais non, non. Voilà. Et puis je peux demander à ne pas faire l'objet d'une décision automatisée individuelle. Ça, j'ai le droit. Quand vous savez, dans les demandes de prêt, souvent à la banque, vous demandez un prêt, généralement ils rentrent les données, puis c'est un ordinateur qui à la fin et qui dit oui, non. Ben là, c'est automatisé. Vous avez le droit de dire non, non. Moi, je veux qu'il y ait quelqu'un qui vise mon, qui lise, réalise mon dossier et qui décide lui-même et pas un ordinateur qui décide. Bon, après, pour le faire appliquer, c'est un peu difficile, mais vous avez le droit. Hein. C'est un petit peu ce qu'avait recalé aujourd'hui, c'est Parcoursup, mais avant Parcoursup, je ne sais pas comment ça s'appelait, il y avait un autre truc, c'était un autre nom, et la CNIL a recalé parce que justement c'était totalement individualisé, c'était un ordinateur et il n'y avait personne derrière qui validait ou pas. Voilà. Amusez-vous, hein, moi je le fais, alors c'est un peu mon métier et puis je teste, hein, mais parfois à exercer mes droits, je le fais de temps en temps. Bon. Je vois comment les gens réagissent et je m'aperçois qu'ils sont pas, ils ont un peu de mal. Allez, les diocèses. Alors, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de la loi informatique et liberté et son échec. La loi informatique et liberté disait qu'avant de mettre en place un traitement, il fallait faire une déclaration à la CNIL. Ce que les gens faisaient, ou peu. Et ceux qui le faisaient, ils faisaient sur Internet la déclaration à la CNIL, ou avant c'était au format papier, et puis une fois qu'ils l'avaient fait, ils disaient, bon, allez, maintenant on travaille, quoi, hein, c'est fait, et puis voilà. Alors que la loi informatique et liberté disait, oui, il faut faire une déclaration à la CNIL, mais après, il faut protéger les données. Les gens faisaient la première étape et s'arrêtaient là. Donc le législateur a bien compris que ça ne marchait pas et il a inversé un petit peu le processus, il a changé de paradigme pour être plus précis, et il a dit en fait, maintenant on ne demande plus qu'il y ait une déclaration, mais on demande à ce que le responsable du traitement soit capable de démontrer à tout moment qu'il met en œuvre et qu'il applique le RGPD. Donc le RGPD, oblige chaque responsable de traitement à prouver qu'il est conforme au RGPD. Et il faut le prouver, en fait, c'est juste de sa obligation. Mais ce n'est pas facile à prouver. Hein. D'accord ? Donc, l'Église, hein, et là, donc, l'évêque ou le curé ou l'économe, doit être capable de démontrer qu'il est conforme au RGPD.
Concrètement, c'est essentiellement à travers des procédures écrites ?
Essentiellement, pour apporter la preuve, oui. Voilà. Alors, comment on fait ? Bah, d'une part, on applique les principes du RGPD. Hein, les 6 principes que je vais, on essaie de les appliquer au maximum, et on écrit tout ce qu'on fait. Donc, bien souvent, on essaye d'avoir des prescriptions écrites, des politiques de confidentialité. Alors, politique, c'est un grand mot, ça s'applique beaucoup à la politique de sécurité de l'informatique, politique de machin truc. Mais enfin, voilà, on essaye de définir des procédures de travail. Alors, je ne dis pas qu'on va faire ça partout, parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans un monde totalement administratif, et puis on va faire que ça au lieu de travailler. Mais voilà, pour ce qui est vraiment les données qui sont vraiment sensibles, on essaye de définir comment on fait et ces procédures-là. Donc, c'est pas des choses très complexes à faire, hein. C'est juste des façons de travailler qui ça prend 5 minutes, ça rentre sur une feuille A4 et puis voilà, hein. On arrive à écrire tout ça. Voilà. Donc on respecte aussi les droits des personnes. Et là, je sais pas d'où vous venez, si vous venez uniquement de Besançon, mais peut-être un peu plus loin, hein, de certains peut-être des paroisses. Hein. J'ai pu comprendre qu'il y avait des secrétaires de paroisse. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri. Tout à l'heure, cet après-midi, hein, d'avoir une personne qui fait une réclamation, hein, qui disant voilà, moi je sais que vous traitez mes données, je veux accès à mes données, ou je veux que vous effaciez mes données. Vous avez un mois pour répondre. Un mois, ça passe vite. Hein. La grosse difficulté qu'on a, c'est en fait, bien souvent, les gens qui reçoivent, là, parce que, en fait, cette réclamation, on peut la faire de façon orale, on peut la faire par mail, on peut la faire par fax, enfin, si encore les fax, par écrit, dans une boîte aux lettres, postée, enfin voilà, n'importe quelle façon. Et la grande difficulté, c'est que la personne qui la reçoit, bien souvent, elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle ne sait pas quoi en faire. Donc ça reste sur un coin du bureau, puis ce n'est pas traité. Et puis la personne, au bout d'un moment, dit ben, je vous ai envoyé ça, pourquoi ce n'est pas fait quoi. Alors on a un peu de mal à réagir, et puis ben, un jour, elle se retourne vers la CNIL, elle dit ben, ouais, Dieu sait, ça fait 6 mois que j'ai demandé quelque chose, il n'y a rien de fait, ils ne font pas le boulot. Et puis on a la CNIL qui descend. Voilà. Donc, soyez très vigilants. Lorsque vous avez une personne qui fait une réclamation, s'il le fait déjà de façon orale, vous lui demandez de l'écrire par mail aujourd'hui, hein, c'est très facile pour tout le monde, hein, d'avoir une trace écrite, et puis vous faites ça, remontez ça tout de suite à l'économe, et puis il me contactera et on traite ensemble. D'accord ? Mais le premier réflexe, c'est de l'avoir par écrit, et puis de le faire remonter à l'économe. Ok ? Ça, c'est très très important. Voilà. On va ouvrir des registres. Le registre des traitements, on va faire l'inventaire. Alors, je crois qu'il a commencé à être fait, hein, l'inventaire de tous les traitements, dans lequel on les documente, on précise là ce qu'on fait. Ça permet à la CNIL de voir ce qu'on fait un peu. Un registre des formations, toutes les formations que j'ai faites. Là, je vais ouvrir un registre pour votre diocèse, et on va mettre, je vais mettre aujourd'hui, là, information sur le RGPD. Hein. Un registre des réclamations, dès lors qu'il y a une personne qui fait une réclamation, ça sera notifié dans ce registre. Tel jour, telle personne a fait tel type de réclamation, lui a répondu telle chose, voilà. En mettant en copie les pièces jointes, hein. C'est des registres électroniques, hein. Le registre des violations, si un jour on a une violation de données, une violation, hein, c'est une attaque, une perte de données, etc. Voilà. Donc en fait, et c'est un peu mon travail, hein, je vais documenter toutes les informations qui permettent de prouver que le diocèse est conforme au RGPD. Voilà. Comment on fait pour le démontrer ? Voilà, on peut avoir également, donc, ce que je vous ai dit, hein, une violation de données, hein, ça peut être une perte, hein, une attaque informatique, une altération sur des données. On doit en informer la CNIL, on a 72 heures pour le faire. On a plutôt intérêt à le faire. Moi, je l'ai fait pour un client, alors c'était pas un diocèse, hein, mais je l'ai fait pour un client. On l'a fait en toute transparence, la CNIL nous a demandé quelques informations complémentaires, et puis ça s'est arrêté là. Hein. Voilà. Personne n'est à l'abri d'une erreur, hein, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, vaut mieux déclarer que pas de déclarer. Et si on estime que ça peut avoir un préjudice pour les personnes, on est aussi tenu d'informer ces personnes. Vous avez peut-être eu parfois des organismes sur Internet qui vous disent de changer le mot de passe de votre compte. Moi, j'ai eu dernièrement, c'était chez, pour ne pas les citer, c'est Discount. Ils m'ont dit, voilà, il faudrait que vous changiez votre mot de passe. Bon, enfin, je sais très bien, ils ne l'ont pas avoué, mais derrière, ils ont dû se faire attaquer. Je devais être dans les... Mon compte a dû partir chez les pirates, et donc, ils m'ont demandé de changer le mot de passe de mon compte pour pas que le pirate achète à ma place, quoi. Voilà. Mais c'est des choses qui arrivent assez fréquemment, quoi. Normalement, ils doivent nous informer vraiment de cette violation. Quand on informe, il y a un risque après d'accident de justice. Hein. C'est ça, c'est qu'il faut craindre, hein, derrière. Mais il vaut mieux le faire que pas le faire. Alors voilà, quels sont les risques, hein. La CNIL peut prononcer des sanctions administratives. Ce sont des sanctions financières. Alors, quand vous voyez que ça va jusqu'à 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial, ça n'a plus rien à voir pour un diocèse. Hein. Là, on est en dehors de la réalité. Mais ces sommes, elles sont aussi élevées là. C'est pour attaquer Google. Ça. Google s'est pris 50 millions il n'y a pas très longtemps. Pour eux, 50 millions, c'est comme s'ils achetaient un billet de 5 euros. Hein. Entre nous, c'était ça. Mais à force de se prendre des 50 millions, 50 millions, 50 millions, au bout d'un moment, ça pique un peu. Et puis, la CNIL le publie, en fait. Et donc, plus c'est publié, plus c'est su, ben, moins les gens ont confiance en Google. Et là, c'est là où le vrai préjudice pour eux, c'est qu'ils perdent des clients, en fait. D'accord. Je vous montrerai des exemples un peu. Hein. Donc, il y a ces sanctions administratives, mais il peut y avoir des sanctions pénales. Hein, je vous l'ai dit, hein, des actions en justice qui peuvent être menées par des personnes concernées, mais la justice peut elle-même s'autosaisir, hein, le procureur, il peut s'autosaisir là-dessus, voilà, ça peut bien s'énerver. On peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Voilà. Voilà. Vous avez des oranges pour votre économe? Mais le plus important pour moi, c'est ça. Hein, parce que les oranges, ça ne coûte pas si cher que ça, hein, mais c'est surtout l'atteinte à la réputation. L'Église aujourd'hui traverse une période où la réputation est plutôt mal menée. Il ne s'agirait pas d'en ramener une couche. Hein, parce qu'il y a des organismes, des médias qui se feraient un malin plaisir d'aller remettre ça et de faire monter ça dans le buzz. Ça monte très très vite. Hein. La moindre petit truc par les réseaux sociaux, c'est pris, c'est repris. Et en 30 secondes, d'une personne, ça passe à 30 000 personnes. Ça explose. Hein. Avec, vous avez un petit but de vérité comme ça, et à la fin, vous avez ça de mensonge, hein, de trucs erronés. Quoi. Ça part très bien. Et après, pour retravailler l'image de l'Église, du diocèse, et machin truc, c'est des années. Hein. C'est des années. Bon, je n'ai pas de démonstration à vous faire dans l'Église. Hein. On sait ce que c'est que la réputation, le problème de la réputation. Donc, voilà. Le vrai risque, il est là. Soyez vigilants, parce que c'est la réputation de l'Église qui est en jeu. Les sanctions financières à l'Église, elles seront jamais très importantes. La CNIL fait attention, elle met des sanctions financières. Quand elle les met des entreprises, elle met des sanctions financières qui ne vont pas faire tomber l'entreprise. Elle met des sanctions qui vont faire un peu mal, mais ça ne fera pas tomber l'entreprise. Je pense que vis-à-vis de l'Église, il y aura peut-être une sanction financière, mais elles ne seront jamais très élevées. Mais c'est ça, c'est surtout ça la réputation. La CNIL, je pense, aura la décence de ne pas le publier, mais il y en a d'autres qui le seront et qui le feront courir sur les réseaux sociaux et la presse va s'en emparer. Voilà, quelques exemples. Alors, ça date d'un an, hein. En juin, Sergi, qui est un promoteur immobilier et qui loue des appartements, une agence de location d'appartements, hein, ils se sont pris 400 000 euros d'amende. Ça commence à piquer, hein, 400 000 euros d'amende, on en fait des choses avec. Hein. Ils avaient un site internet sur lequel les locataires pouvaient remplir des données. Et en fait, alors, vous savez ce que c'est l'URL, hein, c'est en haut, vous avez un bandeau HTTPS ou pas S, slash, et puis des trucs comme ça là, qui suivent, avec un caractère qui suivent. Et en fait, vous aviez peut-être un compte dans cette agence-là qui finissait par le 1. Si vous effaciez le 1, vous mettiez le 2, ben vous tombez sur le compte du locataire suivant. Mais ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Hein. Vous avez toutes les données du locataire suivant. Et quand vous jouez à un appartement, parfois, il faut donner des pièces. Les revenus des parents, les garanties des grands-parents, etc. La situation familiale, enfin, voilà, on vous demande pas mal de pièces. Et ben, tout ça, c'était accessible. 400 000 euros d'amende. Bon, ils ont un peu cherché parce qu'ils ont eu une mise en demeure. Enfin, ils ont d'abord une mise en demeure, hein, mais ils n'ont rien fait. Bon, d'un moment, comme ils ne réagissaient pas, ils sont pris 400 000 euros d'amende. Union Traite, une petite société de 9 personnes à Paris qui faisait la traduction. Ils sont pris 20 000 euros d'amende. Vous voyez, c'est proportionnel à la taille de l'entreprise. Mais pour une petite entreprise parisienne, 20 000 euros d'amende, bah, ça fait mal. Hein. Là, il y avait la messagerie, hein, qui n'était pas surveillée. Et puis, il y avait de la vidéosurveillance. Les salariés étaient filmés en permanence. Ça, c'est interdit. Ouais. Voilà. Et puis, pas de traçabilité sur la messagerie. Ça, c'est des problèmes qu'on rencontre souvent, hein, dans les entreprises et dans les diocèses, hein, sur la messagerie. Si j'ai un conseil à vous donner, n'utilisez pas votre messagerie professionnelle, personnelle pour vos activités au sein du diocèse, que vous soyez salarié ou pas. Faites la distinction. Créez-vous, d'ailleurs, si le diocèse ne peut pas vous mettre en place une adresse messagerie, votre nom, votre prénom, @, je ne sais comment c'est, vous, c'est...
Le diocèse,
si elle ne peut pas le faire, eh ben, vous allez sur Gmail, parce que Gmail, elles sont très sécurisées, hein, Google a fait bien les choses, hein, et créez-vous une adresse, vous mettez votre nom, vos prénoms, et puis vous mettez Dio 25 ou un programme en plus pour identifier, et puis utilisez cette messagerie uniquement pour votre activité au sein du diocèse. Ne mélangez pas avec votre messagerie personnelle, vous créez une vulnérabilité. D'accord ? Donc voilà, soyez très vigilants là-dessus. Essayez de bien cloisonner vos activités, de manière à ne pas mélanger. On se fait souvent avoir là-dessus, hein, sur la messagerie. Active Assurance, Même chose, vous savez, hein, je vous l'ai dit là, dans les comptes de l'agence immobilière, hein, le 1, vous passez le 2, vous avez le dossier du client, du locataire suivant, et bien c'était la même chose, sauf que là, c'était des données de santé. Voilà. Eux, ils sont pris 180 000 euros d'amende. Et je trouve que c'est pas cher payé. Hein. Bon, ça a été publié, hein, donc voilà. Boutique Aéro, une petite boîte sur l'aéroport de Toulouse qui vend de la documentation, des livres, du matériel un peu pour les pilotes amateurs. Ils se sont fait passer aussi vidéosurveillance abusif. Ils ont eu une mise en demeure et il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, la mise en demeure a été levée parce qu'ils ont corrigé le tir, ils se sont mis en conformité. Et donc la CNIL n'a pas mis de sanctions. Voilà, donc c'est intéressant de savoir qu'on peut corriger le tir. Bon, il y a le préjudice de la réputation, mais bon, Boutique Aéro, il faut habiter Toulouse, il faut être pilote d'avion pour aller là-bas. Dans cette... bon, voilà. Futira, boîte qui faisait de l'isolation à 1 euro. Vous savez, vous êtes embêté au téléphone, isolez vos camps, les machins trucs. Eh bien, ils faisaient partie des acteurs de ceux qui nous embêtent au téléphone. Ils se sont pris, attendez, 500 000 euros d'amende. Ça commence à faire cher, hein. Voilà, j'étais allé voir leur chiffre d'affaires en 2017, c'était 27,6 millions d'euros, donc soit 1,8%. Ça pique un peu quand même. Hein. Au mois de décembre dernier, alors non, on n'a pas su, hein, mais, parce que la CNIL a juste publié ça, mais sans les noms, hein, il y a des établissements scolaires qui ont été mis en demeure de mettre leur système de vidéosurveillance en conformité avec le RGPD. Voilà, certainement que dans la cantine, les enfants peut-être hein, étaient filmés en permanence. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. J'ai vu une fois une cantine où, pour les maternelles, ils ont pas, ils sont incapables d'avoir leur carte de cantine. Hein. Donc, ils prenaient en empreinte digitale. En soi, c'est pas idiot. C'est pas idiot parce que voilà, puis c'est mazant pour l'enfant, il met ça comme ça. Hein. Et là, c'est abusif, c'est disproportionné par rapport à la finalité. Quoi. Voilà. Plus récent, 28 juillet, mesdames, si vous allez sur Spartoo pour acheter vos chaussures, je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ils sont présents dans 13 pays. C'est une boîte, petite boîte hein, qui est à Grenoble, mais ils ont des sites internet dans quasiment tous les pays européens. Ils ont plus de 3 millions de clients, machin truc. Ils n'avaient rien fait au niveau RGPD. Rien, rien, rien. Ils se sont fait passer au mois de juillet. Ils se sont pris 250 000 euros d'amende et une injonction sous astreinte de se conformer au RGPD. On ne sait pas ce que va donner la suite. On ne sait pas s'ils vont réussir. Mais il y a déjà l'amende et après, je ne sais plus combien la pénalité par jour. Quoi. Mais c'est incroyable. Une boîte comme ça, qui a plusieurs millions de fichiers clients, ils n'avaient rien fait, même pas de registre, rien du tout. Voilà. Donc, dernièrement, ça se passe en Normandie. Le 22 septembre, donc c'est quand même assez récent, il y a une mise à l'ordre. Donc là, il n'y a pas de sanction, hein, parce que c'est un élu qui s'est fait pincer par la CNIL et puis le rectorat. En fait, ça s'est passé en 2019. L'élu, c'est dans la Manche, hein, député de la Manche, qui a demandé au rectorat les adresses mail de tous les bacheliers. Et puis, elle a envoyé un petit mail de félicitations. Mais ce n'est pas légal parce qu'en fait, le traitement qui a été mis en place par le rectorat, la finalité, c'était de collecter tous les bacheliers. Enfin, c'était dit, voilà, et ce n'était pas du tout la finalité, ce n'était pas de l'envoyer aux élus pour qu'ils puissent faire une lettre de félicitations. Donc, le traitement qui a été fait par le rectorat dans le fait de transférer les données à l'élu et le traitement qui a été fait par l'élu pour féliciter les bacheliers, qu'il était illégal. Donc, ils se sont pris une mise en demeure.
C'est quelqu'un qui a dit à la CNIL qu'il s'était passé ça.
Oui, c'est certainement un élève ou un parent d'élève qui a dit comment ça se fait. On en a entendu parler dernièrement. Il y a eu aussi un élu le président de la région Rhône-Alpes Auvergne qui avait fait ça, je crois aussi, qui avait utilisé les fichiers. Voilà, c'est ça. Donc c'est une finalité qui n'avait pas été prévue initialement et détournée. Donc c'est un traitement illégal. Voilà, j'arrive à la fin. Le RGPD s'applique à l'Église, vous l'avez bien compris. Hein. Aujourd'hui, on a des gens, des citoyens, qui ont compris ce qu'était le RGPD, qui sont au courant de leurs droits et de ce qu'ils peuvent demander aux organismes qui traitent leurs données. On le voit avec des statistiques qui ont été faites par la CNIL. Hein. Il y a eu une explosion des plaintes depuis le RGPD, hein, plus de 30%, et 70% en 79, hein, en 2019, 70% des Français se disent aujourd'hui sensibles aux problématiques de protection de leurs données. Donc on ne peut plus dire que les gens ils s'en foutent de leurs données à caractère personnel. D'une certaine façon, oui et non. Parce que, par exemple, moi, quand je vais sur un site internet et que j'ai d'abord que je dois dire j'accepte ou j'accepte pas les traitements, maintenant on a ça, hein, bien souvent j'en ai marre, j'accepte. Ça veut dire qu'en fait, tant pis, je lâche un peu de mes données. Mais quand il s'agit d'exercer ses droits, là, on, on, rep, reprend son envie de protéger et puis on le fait. Donc, on ne peut plus dire que les gens s'en foutent. Le jour où la personne, elle y trouve un intérêt peut-être financier derrière, elle se dit, tiens, je peux peut-être gagner de l'argent, ou au moins elle a envie de faire valoir, de se faire respecter, elle connaît le RGPD et elle sera capable de demander. Donc, y compris au sein de l'Église, on n'est pas à l'abri hein, de ce genre de choses. Donc on ne peut pas du tout négliger le RGPD et se dire nous l'Église on est un organisme à part et on est à l'abri. Ça c'est faux. Je vais revenir. Le RGPD a pour vocation de protéger les droits et les libertés des personnes physiques, ce qui n'est pas sans rapport avec le message évangélique de l'Église. Voilà, hein, l'Église quand même a une des missions, c'est de respecter la personne, hein, l'être humain en lui-même. Hein. L'Église traite de nombreuses données à caractère personnel, des données particulières hein, qui peuvent révéler des convictions religieuses, des données de santé, je vous l'ai dit, des données concernant les mineurs. Elle est collecteur de dons, agence de voyage, organisatrice d'événements, éditeur de revues périodiques, elle gère des salariés, des bénévoles, des personnes ordonnées qui n'ont pas de reconnaissance dans le droit civil, hein, démissionnées, enfin voilà. On traite des choses quand même assez extraordinaires. Avec les registres paroissiaux, elle est à l'origine des premiers traitements de données à caractère personnel. Il n'y en avait pas avant. C'est le registre paroissiaux, hein, les premiers. Voilà, donc on vit au cœur des données à caractère personnel. Hein, et appliquer ce RGPD, hein, c'est préserver la réputation de l'Église. Et puis, il manque la phrase. Mais c'est peut-être pas si mal parce qu'une fois on m'a fait la remarque, c'est aussi la capacité financière de l'Église. Voilà. Parce que l'Église a besoin d'argent pour fonctionner, hein, on le reconnaît tous. Hein. Mais voilà, c'est quand même la réputation, voilà, préserver l'image de l'Église. J'en ai fini, je suis dans les temps. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu vite sur certaines choses. Vous avez la présentation, je vous autorise, sans droit d'auteur, à la diffuser au maximum. Si vous avez des questions à poser, des choses un peu plus précises, passez par l'économe, il vous transmettra mon adresse mail, vous m'envoyez un mail, vous me posez la question. Je suis disposé à vous répondre, sans problème. J'essaye de répondre dans la semaine. Si je tarde un peu, vous me faites une piqûre de rappel et je vous répondrai. D'accord ? Ce que vous retenez aussi, hein, on va travailler un peu sur la mise en conformité ensemble. Je vais vous accompagner. Je fais en sorte, parce que j'ai bien compris avec mes clients, ce n'est pas forcément l'Église, que si je ne suis pas derrière, si j'accompagne derrière, ça ne se fait pas. Et je vous comprends parce que vous avez un métier, entre guillemets un métier, vous avez une activité, une occupation, vous avez certains objectifs à atteindre. Et le RGPD, ça ne doit pas être un frein à votre activité, ça ne doit pas être une contrainte supplémentaire. Je suis là derrière pour vous accompagner, pour mâcher le travail, pour vous faciliter. Maintenant, je ne peux pas le faire à votre place parce que ce n'est pas moi qui manipule vos données. D'accord ? Donc, je suis vraiment là pour vous soutenir, pour vous aider. N'hésitez pas à me solliciter, à me demander des conseils. Voilà, j'ai échangé dernièrement des mails avec des personnes sur les fiches d'inscription pour le KT, des choses comme ça. Je réponds. N'hésitez surtout pas, je suis là pour ça, pour vous accompagner dans cette démarche. Vous n'êtes pas tout seul à prendre les rames la barre pour naviguer dans le RGPD. C'est moi qui prends la barre, c'est moi qui vous accompagne. OK ? C'est bon ? Je vous remercie pour votre écoute.